débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale. En Arabie Saoudite, les opposants sont emprisonnés, rançonnés quand ils sont riches et peuvent disparaître mystérieusement quand ils ont besoin d'un papier administratif délivré par un consulat. L'affaire Jamal Khashoggi met en lumière un régime qui ne s'embarrasse pas des droits de l'homme pour mener ses affaires. La guerre qu'elle poursuit au Yémen depuis 3 ans dans une quasi-indifférence internationale ou le blocus du Qatar sont d'autres exemples d'une politique autoritaire pour ne pas dire agressive. Mais l'Arabie Saoudite est un pays riche, immensément riche, du pétrole de son sol. Son maître du moment se dit réformateur et veut attirer les investisseurs du monde entier. Alors jusqu'où pourra-t-il forcer ses partenaires occidentaux à fermer les yeux sur ses pratiques condamnables? La richesse de l'Arabie Saoudite rend-elle ce pays intouchable? On va en parler avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite. Je commence avec vous, David Rigolet-Rose, enseignant, chercheur à l'IFAS, l'Institut français d'analyse stratégique. Vous êtes également le rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Bonsoir, David Rigolet-Rose. Et puis, je signale, avant de passer à Olivier Dallage, que le numéro 3 de votre revue s'appelle « Arabie Saoudite entre évolution et révolution ». On est en plein dans notre sujet déjà. Olivier Dallage est lui rédacteur en chef à RFI. Vous êtes aussi un grand spécialiste de l'Arabie Saoudite, entre autres. Bonsoir à vous, Olivier Dallage.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre pour ce débat. Alors, on peut difficilement débuter cet entretien sans évoquer la figure de celui qui est désormais le maître de l'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, MBS, comme on l'appelle communément. Il a émergé sur la scène publique comme un réformateur, et voilà qu'il apparaît comme un autocrate, limite mafieux. Alors, comment présenter MBS en préambule, Olivier Dallage?
Bah, c'était un quasi inconnu pour la plupart du monde extérieur, la plus grande partie du monde extérieur quand son père a accédé au trône. C'était en janvier 2015, ça fait tout juste 3 ans et demi, presque 4 ans, et il a été nommé ministre de la Défense à seulement 29 ans. Et puis rapidement, on lui a donné des responsabilités économiques, et puis il a été nommé vice-prince héritier, et puis prince héritier. Et dans le même temps, en tant que ministre de la Défense, il avait déclenché la guerre au Yémen en mars 2015 en prenant la tête d'une coalition d'une dizaine de pays. Mais enfin, faut pas se tromper, c'est l'Arabie Saoudite qui était vraiment à la manœuvre. Et lui, il se faisait mettre en scène à la télévision comme avec des plans pour tracer des campagnes militaires. Et puis plus tard, quand l'échec était patent, il s'est débarrassé de ses mêmes militaires en faisant remanier l'état-major. Et en même temps, il se montre réformateur sur le plan économique au sens occidental, c'est-à-dire privatisation, grand projet d'investissement avec du capital étranger privé, et pour ça il faut désossifier la société saoudienne, donc ouverture de cinéma, concerts mixtes, les femmes ont le droit de conduire, sauf que dans le même temps il met en prison tous ses opposants, que ce soit des conservateurs islamistes, des intellectuels libéraux, des hommes d'affaires à qui on prélève une bonne partie de leurs avoirs pour pouvoir les libérer. Voilà, très rapidement, une trajectoire météorique d'un jeune homme très ambitieux, extrêmement autoritaire et à qui son père a donné tous les pouvoirs.
Mmh. Vous voulez ajouter quelque chose à ce portrait express, David Rigolet-Rose?
Oui, non, il y a beaucoup de ça. Il y a une forme d'énigme, finalement, quand même, dans l'ascension spectaculaire et extrêmement rapide, qui est inédite dans le système saoudien, parce que jusqu'à présent, les choses se faisaient de manière quand même beaucoup plus lente. Là, c'est spectaculairement rapide et c'est un personnage complexe, effectivement, ambivalent, on va dire, qui a suscité, qui laisse pas indifférent et qui a suscité des réactions extrêmement contrastées depuis son accession au trône, parce qu'effectivement, qui tient à cette ambivalence entre d'un côté des velléités réformatrices avérées, parce que je pense qu'il a fait un bon diagnostic sur les impasses, les archaïsmes de la société saoudienne, et en même temps, effectivement, des modalités souvent brutales dans la mise en œuvre et donc c'est là que tient peut-être le malentendu. Il y a eu un probable malentendu initial d'une certaine manière en vue d'Occident, c'est-à-dire que la libéralisation et les mesures de réforme ne s'entendent pas au sens politique du terme, elles s'entendent au sens strictement économique et éventuellement sociétal, mais quand elles sont articulées à l'aspect économique, je pense notamment à la conduite pour les femmes, c'est tout simplement parce qu'il faut ouvrir l'économie saoudienne Biden, la saoudiser l'économie et donc l'ouvrir aux femmes, au travail des femmes.
Est-ce qu'il est populaire dans son pays?
Alors là aussi, ça dépend de qui, de la part de qui. Il est trentenaire, donc il perçoit bien les attentes de sa population, puisqu'il faut quand même rappeler qu'il y a 70% de moins de 30 ans, la moitié de la population a moins de 25 ans. Donc c'est quand même un enjeu, un défi considérable, et il sait qu'il y a des attentes. Mais en même temps, ces attentes sont contradictoires, parce que quand on pense aux réformes structurelles qu'il préconise, effectivement, ça passe aussi par leur mise en cause de l'État-providence, et là il n'est pas sûr que les alliés d'aujourd'hui, enfin ceux sur lesquels il s'appuie, en l'occurrence par exemple les jeunes et les femmes, seront toujours les mêmes demain. C'est tout le problème, c'est tout le dilemme de sa stratégie.
Il hérite, il faut le dire, Olivier Dallage, d'un régime qui était autoritaire bien avant lui. Il est différent de son prédécesseur?
Quel prédécesseur?
Son père, le roi, qui a quand même mené...
Son père est toujours en activité, il est toujours le roi, et en fait, Mohammed Ben Salman tire son pouvoir de la délégation presque totale que lui a donné le roi Salman, qui continue de jouir d'un grand prestige en Arabie Saoudite, parce qu'il passe pour être le sage de la famille, c'est lui qui arbitrait les conflits internes, il est aux affaires depuis très 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 longtemps, il manifeste plus de subtilité. Il faut bien le reconnaître que son fils, dans la gestion des affaires diplomatiques, et de temps en temps, il a fait des corrections de trajectoire sur quelques points précis. Mais oui, il est très différent, parce que lui a une conception absolument verticale du pouvoir. Il faut bien comprendre que quand le fondateur du royaume est mort en 1953, il n'avait pas véritablement pensé le pouvoir. Donc il réunit ses fils... Et il leur dit, surtout ne vous divisez pas, parce qu'il a en tête que les deux premiers états saoudiens, notamment le deuxième, sont tombés à cause des divisions internes à la famille. Et donc, il va se passer que le fils aîné va lui succéder, mais il lui dit bien, tu prends soin de tes frères. Et donc, on va se succéder de frère en frère, et il avait beaucoup de fils, Ibn Saoud, puisqu'il a eu beaucoup beaucoup d'épouses et de concubines. Et donc là, on arrive au bout de cette génération, et on passe à la génération suivante. Donc chacun attend toujours privilégier ses fils, en écartant un peu les autres, mais malgré tout en gérant, en dirigeant au sein d'un conseil de famille où on essaie de trouver un consensus, qui a un gros avantage, ça prend du temps, c'est très lent et tout. Mais une fois que la décision est prise, tout le monde l'assume. Là, c'est très clair, on a écarté toutes les branches de la famille, sauf les enfants de Salman, et notamment de sa troisième épouse, et les autres n'ont pas voix au chapitre, et donc ils se retrouvent tout seuls, avec tous les pouvoirs, mais tout seuls.
Bon, alors, MBS... à la tête d'un pays riche en ressources en pétrole, comment on pourrait évaluer cette fortune? Dans quoi est-elle investie? À quoi sert-elle d'une certaine manière?
La manne pétrolière a surtout fait vivre tout un système pendant très longtemps. C'est-à-dire que, et c'est aussi l'enjeu des réformes qui sont préconisées par le prince Mohammed bin Salman. Il y a un géant pétrolier qui est l'Aramco. D'ailleurs, il était question qu'une partie de l'Aramco, 5%, fasse l'objet d'une introduction en bourse, et ça n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, c'est un des blocages qu'a généré son père. Il y a l'aspect palestinien et sur l'Aramco, probablement parce qu'il y a un problème, c'est que pour mettre sur le marché, il faut une transparence des comptes qui n'a jamais existé. Et puis, l'Aramco était un peu la vache à lait de tout le système saoudien, à la fois sur le plan interne et sur le plan externe. C'est-à-dire que les clans se servaient, effectivement. Il y avait de l'argent qui rentrait, et puis de manière externe pour les exportations, évidemment, pour faire rentrer des pétrodollars. Le problème, c'est quand cette manne se tarit. C'est ce qui s'est passé en 2014 avec l'effondrement des cours du baril, et donc la richesse supposée infinie, la corne d'abondance pétrolière s'est considérablement réduite, et ça a induit évidemment des tensions très très importantes qui ont participé d'ailleurs justement à la stratégie de prise du pouvoir personnel par le prince Mohammed bin Salman. Il s'agissait de faire le ménage pour restructurer et trouver une solution avec l'horizon de l'après-pétrole, et c'est un enjeu considérable, surtout que les réserves pétrolières sont jugées les plus importantes du monde, avec celles du Venezuela, mais en même temps, et c'est tout l'enjeu de l'introduction en bourse de l'Aramco, elles sont pas forcément établies de manière certaine, et donc ça suscite aussi des interrogations.
On peut peut-être évoquer, avant de parler des États-Unis, parce qu'ils ont un rôle dans cette affaire, du rôle d'acteur régional que joue l'Arabie Saoudite au Proche-Orient. Il est, Il est important ce rôle-là.
Il est d'autant plus important que les grands acteurs historiques au Moyen-Orient avaient des leaders qui ont tous disparu et qui n'ont pas été remplacés. Je pense à l'Iran qui est marginalisé mais qui reste un acteur important, on va y revenir. À l'Irak de Saddam Hussein, qui aujourd'hui est en proie aux divisions. L'Égypte de Nasser et puis de Moubarak qui a suffisamment de problèmes à régler en interne pour pas s'occuper du reste. La Syrie de Hafez al-Assad qui est l'ombre de ce qu'elle a été. Et donc par défaut, de toute façon, il ne reste que l'Arabie Saoudite qui joue à fond du fait que les deux lieux saints principaux de l'islam se trouvent sur son territoire. Mmh. Voilà. Et puis, la richesse et la religion sont les deux mamelles en quelque sorte du pouvoir saoudien. Ayant dit ça, je suis frappé du fait que le pouvoir d'entraînement de l'Arabie Saoudite n'est plus tout à fait ce qu'il a pu être et qu'il faut vraiment, par exemple, quand ils veulent faire des coalitions, on ne trouve que les États clients de l'Arabie Saoudite et ses alliés les plus proches, les autres restent à l'écart. Donc oui, l'Arabie Saoudite est très influente et elle est à la pointe du combat contre l'Iran, mais elle n'est pas aussi influente qu'elle pourrait l'être si elle s'ouvrait davantage aux autres.
Mmh. Alors, on peut se poser maintenant la question de savoir pourquoi l'administration Trump semble finalement si crédule face aux explications embrouillées, changeantes du pouvoir saoudien dans cette affaire Khashoggi.
Crédule, est-ce que c'est de la crédulité ou une complaisance intéressée? C'est tout le problème, parce qu'il y a une certaine, il y a un certain réalisme de la part de l'administration Trump. On va dire un peu, on peut parler de cynisme même, dans la mesure où effectivement le viatique de l'administration Trump c'est la lutte contre l'Iran, et donc toute la stratégie de sa diplomatie s'est faite à partir des pays qui sont susceptibles effectivement de constituer un front anti-iranien, au premier rang desquels évidemment l'Arabie Saoudite au sein du Conseil de coopération du Golfe, et ça explique la relation toute particulière qui a été restaurée parce qu'elle avait été quelque peu malmenée, on va dire, sous le mandat Obama qui avait fait un rapprochement avec l'Iran justement, et donc là c'était un recadrage au profit de la vieille alliance, celle de 45 finalement, qui avait du pacte du Quincy, renforcée avec une dimension plus personnelle d'une certaine manière entre notamment le gendre du président américain, Jared Kushner, oui. Et puis MBS, ils sont tous les deux à peu près du même âge, donc ça a favorisé les... Et d'une certaine manière, c'est eux qui articulent cette relation quasi symbiotique aujourd'hui, qui est parasitée évidemment par les derniers événements.
Mais est-ce qu'on a une idée claire de cette relation, de ce qu'elle pèse financièrement, en tout cas entre Jared Kushner et le prince Ben Salman?
Bah, en tout cas, officiellement, ça a été dit de manière assez explicite par le président Trump, parce que il lui a dit qu'il n'était pas question de renoncer. Il a affirmé au grand public, effectivement, qu'il n'était pas question de renoncer au faramineux contrat qu'il avait signé lors de son premier déplacement à Riyad, une fois élu, qui se montait à 380 milliards, dont 110 milliards de contrats d'armement. Donc, c'est dire que cette variable économique, commerciale, est dûment assumée, et qu'elle est loin d'être négligeable, puisque le président lui-même dit que ça représente 500 000 emplois, et que c'est donc une variable absolument nécessaire à prendre en compte.
Mmh. Quelle serait, Olivier Dallage, la responsabilité de Donald Trump dans ce sentiment d'impunité que semble avoir Mohamed Ben Salman?
Elle est énorme. Pour quelqu'un qui a fait toute sa campagne en dénonçant, outre les Mexicains, les musulmans, et le fait que Obama s'était incliné devant le roi d'Arabie, il a surpris tout le monde, Trump, en consacrant son premier voyage à l'Arabie Saoudite, où il a été reçu plus que royalement. Et là, il a fait un discours où, comme Obama, il a dit « je suis pas là pour vous donner des leçons », mais là où Obama ajoutait qu'il y avait quelques principes qui étaient de nature universelle et qui n'étaient pas seulement occidentaux, Trump s'est arrêté là. Et il a clairement fait comprendre à tous les chefs d'État arabes et musulmans qui étaient présents que... il n'allait pas les ennuyer sur la question des droits de l'homme. Le message a été parfaitement reçu, et voilà. Le fait que les États-Unis, qui fournissent de l'aide militaire à l'Arabie Saoudite dans la guerre au Yémen, n'aient émis aucune réserve publique, a donné un sentiment de toute puissance à Mohamed Ben Salman. J'ajouterais que sur ce plan-là, les Français et les Britanniques ne sont pas totalement innocents non plus, puisqu'on regarde de l'autre côté quand il y a des bombardements au Yémen, et que pour les condamner, on évite de dire qui bombarde. Mmh. Je ferme la parenthèse. Et donc, si pendant 3 ans et demi, le monde occidental n'a rien eu à redire au fait que plus de 16 000 yéménites ont trouvé la mort, je ne sais pas combien de centaines de milliers de blessés, et une famine et le choléra, pourquoi on devrait craindre quoi que ce soit pour un ressortissant saoudien qui a des ennuis?
Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est dans quelle mesure le monde du business, de la finance internationale, peut-elle continuer d'investir, de travailler avec l'Arabie Saoudite, quand le pouvoir en place se rend coupable de d'actes comme ceux qu'on décrit depuis le début de cette émission? David Rigolet-Rose.
En tout cas, sans préjuger des attendus d'un résultat de l'enquête, puisque les Américains ont donné encore quelques jours aux autorités saoudiennes pour faire la lumière sur les attendus effectivement de cette affaire. Il y a d'emblée certains acteurs économiques comme Richard Branson de Virgin Galactic ou d'autres ont soulevé la question effectivement de l'impact économique, et en disant d'ailleurs que si les faits devaient être avérés, ça changerait radicalement les perspectives d'affaires des Occidentaux vis-à-vis du gouvernement saoudien. Alors on peut penser que c'est une déclaration personnelle, mais elle a été suivie par un certain nombre d'autres. J'évoquerai Harry Emmanuel, qui était aussi engagé financièrement avec les Saoudiens pour le développement d'une communication liée à l'entertainment, et qui a insisté sur le problème de la légalité, puisqu'il y a une culture de la compliance qui s'est développée, et donc il y a un malaise des grands investisseurs potentiels qui avaient été intéressés par les annonces faites dans le cadre du projet Vision 2030 par le prince Mohammed bin Salman, et qui aujourd'hui, alors il y a une forme d'attentisme d'ailleurs qui est vérifié par les investissements directs étrangers qui sont passés de 7,5 milliards à seulement 1,5 milliard, donc assez curieusement, mais c'est un indicateur intéressant. Et puis là manifestement, avec le forum intitulé Davos du désert, qui risque d'être désertique au sens littéral du terme vu les défections, il y a une forme de défiance généralisée des acteurs économiques mondiaux, du Gotha de la finance et autres, justement compte tenu du contexte, on va dire, délétère qui prévaut aujourd'hui.
Mais va-t-elle durer? On ne sait pas.
Oui. Alors, c'est toujours le problème. Les intérêts sont jugés toujours prioritaires. Mais il y aura probablement quand même un avant et un après cette affaire. C'est-à-dire que vraisemblablement, il y a un questionnement qui était latent et qui devient vraiment beaucoup plus explicite aujourd'hui sur la faisabilité des réformes dans le contexte actuel.
Olivier Dallage, est-ce que l'opposition saoudienne est en mesure d'exploiter ce faux pas, entre guillemets, du pouvoir ?
Non, mais il n'y a pas d'opposition saoudienne au sens classique. Il y a des opposants, quelques courants plus ou moins souterrains, beaucoup de leurs représentants sont en prison, et ceux qui sont en exil sont très peu organisés. Donc non, il n'y a pas d'opposition saoudienne en mesure de prendre la relève à une brève et même moyenne échéance. Oui. Là, on ne sait pas.
Mais qui a les clés de cette crise alors ? Le roi, il est encore le détenteur officiel du pouvoir, vous le disiez tout à l'heure ?
Il a des clés très importantes. Les autres princes, s'ils veulent prendre leur destin en main et avoir le courage de défier Mohammed bin Salman. Les Américains, s'ils comprennent aussi qu'ils entraînent tout le monde dans le précipice et eux avec. Voilà, il y a plusieurs personnes qui détiennent les clés, mais il faut qu'ils tournent la serrure en même temps.
Alors, juste une dernière question, parce qu'on arrive quasiment en fin d'émission. C'est une affaire qui va résonner longtemps encore dans l'actualité, d'après vous, ou qui va finalement finir dans l'oubli, dans l'indifférence, David Rigolet-Rose ?
En tout cas, ce qui est vraisemblable, c'est que ça laissera des traces sur le moyen et long terme, même si elle parvient à être gérée à court terme. Encore, il y a quand même des interrogations parce que manifestement, il y a une gestion de crise qui est plus ou moins aléatoire. On était dans un registre de communication de crise pas tellement maîtrisé, et on le voit bien avec les déclarations contradictoires, chaotiques des uns et des autres. Donc, ce qui est quand même vraisemblable, c'est que ça laissera des traces.
D'accord. On n'en dira pas plus ce soir. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous les deux, David de Rigolet-Rose, enseignant-chercheur à l'IFAS, l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, et Olivier Dallage, rédacteur en chef, lui, à Radio France Internationale. Et curieusement, vous avez écrit tous les deux une géopolitique de l'Arabie Saoudite, David Rigolet-Rose chez Armand Collin, et vous, Olivier Dallage, aux éditions Complexes, hein, c'est ça ? Merci également à Arnold Assewa qui a préparé cette émission, et à Jenab Sangaré qui la réalise en ce moment même. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez à l'écoute de Radio France Internationale. Un nouveau journal dans quelques secondes.